Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du Énervé de la Suite France Inter plus 2, Toulouse-Lautrec cette semaine. Hier, en haut de Montmartre, ce soir, en bas, au Moulin Rouge, qui fête cette année ses 130 ans. Entre le Moulin Rouge et Henri de Toulouse-Lautrec, c'est à la vie, à la mort. Chaque soir, il assistera au spectacle et dessinera les clients et les cancaneuses qui en ont fait leur mascotte, comme elle l'appelle, leur petit bonhomme. En 1891, c'est lui qui va dessiner la première affiche publicitaire du lieu, qui reste encore l'image emblématique de ce cabaret parisien. Le 3 février 1980, dans le cadre du 90e anniversaire du Moulin Rouge, Yves Mourousi consacre son émission Dimanche Actualité Magazine au cabaret, avec pour invité l'écrivain Jean Descartes et Roland Léonard, le directeur du Moulin Rouge. Au programme, bien sûr, l'histoire de ce lieu incontournable de la vie nocturne parisienne, bien sûr hanté par la silhouette de Toulouse-Lautrec. Plus de Moulin Rouge, soirée cancan sur France Inter.
Après Dominique, nous allons parler de la Goulue, de Gris d'Égout, de Mimi Patenlet, toutes les héroïnes de ce Moulin Rouge qui fête cette semaine ses 90 ans.
1889, à 9h du soir, quand Charles Hilder, un entrepreneur de spectacle, a l'idée géniale et révolutionnaire pour l'époque d'attirer tout le monde sur la butte Montmartre avec un spectacle nouveau. Qu'est-ce que c'est que ce spectacle ? C'est une danse. Une danse qui fait peau neuve. Il s'agit du cancan qui s'appelait avant le chahut. Le chahut avait été la danse à la mode sous le Second Empire. Et disons qu'après la défaite de 1870, Paris ne dansait plus. On avait eu des années noires. Il avait fallu attendre à peu près 1885 pour que réapparaisse dans les balles des barrières cette danse déjà un petit peu plus canaille, un petit peu plus agitée. Et en 1889, un frisson de plaisir secoue Paris, c'est le cancan. Alors l'idée était formidable d'associer tous les types de spectateurs. C'est-à-dire qu'on avait à la fois les beaux quartiers, les messieurs en habit qui gardaient leur haute forme devant les dames, comme le fera plus tard Valentin le Désossé, et puis le spectateur populaire à casquette qui est là. Et tout le monde était moustillé de la même façon par la tenue des danseuses, bas noirs, robes à volant, et ce cancan qui présente des figures imposées, c'est-à-dire qui s'appelle par exemple la guitare, le port d'armes et le grand écart. Seul le grand écart permet de distinguer de vraies cancaneuses, parce que c'est le plus difficile. Mais tout en précisant que Valentin Désossé et la Goulue, par exemple, n'étaient pas des danseurs au sens chorégraphique du terme, mais vraiment des gens qui dansaient d'instinct. Donc on venait danser, on disait à l'époque, ce sont les blanchisseuses qui dansent. Ce n'était pas du tout un corps de ballet ou une troupe, comme c'est le cas aujourd'hui. Et on a trouvé des gens assez surprenants dans la salle. On a trouvé le malheureux Friedrich Nietzsche, le philosophe de Zarathoustra, dont le cerveau était déjà bien malade et qui, avant de disparaître à la vie intellectuelle, est venu un soir d'automne 1889 devant un petit verre voir les cancaneuses. Bien entendu, il faut parler de Toulouse-Lautrec qui était juché sur un tabouret de bar, ses petites jambes battant la mesure et qui croquait les personnages, les silhouettes de sa magnifique œuvre, son œuvre magnifique. Et puis on a des gens comme Colette qui ont dansé là, qui ont posé dans des tenues plus ou moins déshabillées. On a des gens comme Francis Carco. Un mélange toujours étonnant. Le public du Moulin Rouge a toujours été un petit peu comme le quartier, à la limite de deux mondes qui se rencontraient dans un même amour de la danse et du galop.
Moulin des amours, tu tournes tes ailes au ciel des beaux jours, moulin des amours, mon cœur a dansé sur tes ritournelles sans même y penser. Mon cœur a dansé, ah mon Dieu, qu'ils étaient jolis, les yeux qui valsaient dans les miens, on s'aimait jusqu'à la folie. Et cet amour te plaisait bien. Des mots de bonheur chantaient sur tes ailes. Des mots de bonheur simples comme nos cœurs.
Jean Descartes pour le Figaro Magazine, Jacques Nozary pour le Figaro, Jacques Crépineau pour le Quotidien de Paris, autant de journalistes qui se sont intéressés cette semaine dans la presse écrite à ces 90 ans du plus célèbre des monuments français. Victor Azaria, lui, a préparé cette séquence pour Dimanche Actualité Magazine. Mais aucun d'eux n'est utilisateur du Moulin Rouge. En revanche, Roland Léonard, le directeur d'aujourd'hui, il est l'utilisateur de ce monument classé monument historique.
La grosse difficulté pour faire de la danse moderne, c'est d'avoir une base classique. C'est indispensable pour avoir une base classique pour faire du moderne. Et pour faire du cancan, c'est encore plus difficile parce qu'évidemment, il y a une partie de danse acrobatique qui est très difficile à acquérir et on est obligé de faire suivre aux filles, à nos filles, un entraînement très très intense, ne serait-ce que pour faire des grands écarts. Et vous savez qu'avant de commencer un cancan, chaque soir, elle se chauffe pendant au moins une demi-heure. Se chauffer, ça veut dire faire des exercices d'assouplissement, faire des élongations, se suspendre à une échelle. C'est vraiment très très difficile, le cancan.
Je cherche partout, je suis heureux comme tout.
C'est sûr, avec votre chienne, je veux bien.
Ma chienne, c'est un chien.
Alors, y'a un beau voyant.
Très bien.
Très très grand nombre de partenaires, Miss Tinguette. Le plus célèbre a été Maurice Chevalier, et le moins connu, c'était moi.
C'était moi, c'était lui, c'était Roland Léonard qui s'est mis au service aujourd'hui de la tradition du Moulin Rouge aux côtés de son directeur, Jackie Cléricault.
Imaginez que dans ce temple du Cancan, qui était alors entièrement en bois, éclairé à l'acétylène, il devait faire une chaleur épouvantable, une poussière terrible secouée par le parquet, et il devait y avoir des odeurs de sueur et de transpiration incontestables, et ça devait être assez épouvantable. D'ailleurs, il y a un certain nombre de témoignages peu ragoûtants sur la question. Les surnoms donnés aux danseurs et aux danseuses et également appartiennent, si j'ose dire, à l'école réaliste de la vie parisienne, parce que appeler une danseuse la môme fromage, c'est peut-être pas tout à fait un compliment. Appeler Nini Patte en l'air, Valentin de Lesaussé, parce qu'il était complètement désarticulé comme un pantin. Donc tout ça a plu à Lautrec. Il faut dire que contrairement à ce qu'on pense, Lautrec n'est pas le premier peintre du Moulin Rouge. La première affiche avait été faite par Chéret. Et c'est ensuite Lautrec qui s'en est occupé et qui a dit « Je n'arriverai jamais à faire aussi bien que Chéret ». Dans le point de vue toujours artistique, le Moulin Rouge suit parfaitement la mode et dans les années folles, c'est Paul Colin qui va faire les grandes affiches du Moulin Rouge, celui qui a fait, bien entendu, la célèbre affiche de Joséphine Baker avec la ceinture de banane. Et d'ailleurs, l'autre soir au gala, une affiche originale de Paul Colin a été mise aux enchères et ce vieux monsieur charmant, qui a près de 90 ans, a dit « À mon âge, on offre du vrai » et il a refait une affiche spécialement. Il ne s'est pas contenté de ressortir quelque chose dans ses fonds de tiroir. Et le 25 avril 1915, un incendie se déclare dans le vestiaire des dames et détruit pratiquement toute la grande salle du Moulin. Et on peut dire que, bien qu'on se batte déjà depuis un an, c'est définitivement la fin de la Belle Époque, en quelque sorte. Il faut attendre la paix, les années 1921, pour que le moulin réouvre et il va réouvrir sous la forme d'un gigantesque music hall. Gigantesque où vont débuter et passer toutes les grandes célébrités qui vont s'appeler Miss Tinguette, qui va créer Ça c'est Paris, qui vont s'appeler Jean Gabin plus tard, qui débute à 40 francs par jour en faisant des sketchs, qui vont s'appeler Joséphine Baker, Maurice Chevalier, etc. etc. Et c'est une pépinière de talents jusqu'à l'exposition en 1937, l'exposition coloniale, date à laquelle le moulin est fermé. Il ne réouvre après transformation dans les années 50 que pour devenir à nouveau un grand music hall. Et le 16 avril 1953, il est donné sans doute le plus extraordinaire de tous les bals des petits lits blancs qui ont été donnés, dont le président était Léon Belby, déjà très fatigué, le vice-président, mon père, Guy Descartes, qui a réussi à faire venir ce jour-là Lily Pons, Joséphine Baker, Charlie Chaplin, Peter Ustinov, qui sont venus faire un gala extraordinaire. Et depuis, eh bien, il ne désemplit pas. C'est un des hauts lieux de Paris. Il a le même âge que la Tour Eiffel et, dans le fond, partage avec lui le privilège de symboler Paris.
Ces deux amours, ton pays est Paris, pars toujours, ton cœur est ravi.
Retour au Moulin Rouge avec France Inter plus de Toulouse-Lautrec ce soir. Le 11 décembre 2005, dans son émission Histoire possible et impossible, Robert Arnault revient sur Jeanne Avril. Fille d'une demi-mondaine et d'un aristocrate italien, elle va commencer sa carrière au Moulin Rouge. Elle la poursuit au Décadent, puis au Divan Japonais, avant de triompher aux Folies Bergères. C'est un personnage un peu à part, allure fragile, éthérée, mais sur scène, une sacrée acrobate pleine d'énergie et de folie. Le reportage est signé de notre réalisateur Stéphane Combe, qui à l'époque a pu assister aux répétitions des danseuses du Moulin Rouge.
Quel est le profil d'un danseur du Moulin Rouge aujourd'hui ?
La moyenne d'âge, ça va être entre 20 et 22 ans. Les gens, les danseurs commencent au Moulin Rouge très très tôt. Il y a une énorme demande parce que sur toute la planète, on reçoit des CV de gens qui disent « Tiens, mais voilà, j'ai fini ma scolarité, mes études de danse. Est-ce que je peux venir travailler au Moulin Rouge ?» Maintenant, nous, ce que nous recherchons, ce sont des filles d'un mètre 72, 75 minimum. Donc déjà, il y a une sacrée sélection qui se fait par la taille. Et pour les garçons, ça va être 1m84 minimum, sachant que nous avons des filles qui font 1m80 et certains garçons qui font 1m97 sur scène, voyez-vous. Et là, on n'a pas encore mis les chaussures avec les talons ni les chignons. Donc après, certaines filles, par exemple, sur scène, des solistes, quand elles ont des plumes dans le prologue, eh bien, de la base du talon jusqu'en haut de la plume, elles font 3 mètres de haut. Donc vous voyez un petit peu le standing que l'on recherche.
Dans le spectacle du Moulin Rouge, il y a un ballet de French Cancan. Et du reste, là, on assiste à une répétition de ce ballet de French Cancan. Est-ce que le French Cancan d'aujourd'hui est le même que celui du début du XXe siècle ?
Non, je ne pense pas que le French Cancan en 2005 soit le même qu'en 1889. Donc, et en même temps, je pense qu'il y avait beaucoup plus de figures à l'époque parce que, comment dire, il y avait des sortes de figures imposées que le public attendait. Il y avait la mandoline, il y avait le port d'armes, des choses qu'on retrouve nous ici aussi au Moulin Rouge avec les solistes. Mais en même temps, c'est bien que le Moulin Rouge ait changé parce que déjà physiquement, les filles ont changé. Elles sont beaucoup plus grandes. Quand on voit les photos de la Goulue, elle était petite et boulotte. Elles ont peut-être pas plus de souplesse que la Goulue, mais en tout cas, il y a une esthétique qui est très importante. Donc c'est certainement beaucoup plus joli à regarder. Mais je pense qu'il devait y avoir une certaine folie à cette époque-là, parce que le public, c'était un floor show, donc les filles dansaient par terre et le public était debout autour d'elles. La Goulue était par exemple très très célèbre. Avec son pied, lorsqu'elle faisait un battement, elle enlevait le chapeau des gens. Et je pense que chaque homme devait dire « J'espère qu'elle va enlever mon chapeau en haute forme ce soir, parce que c'est une manière en plus de voir les froufrous, de voir ses jupons. » Vous voyez, il y avait une... que nous on est sur scène, on est un peu comme dans un théâtre, où les filles sont coincées sur scène, le public est assis et regarde. Il y a peut-être moins d'interactivité, même si le public qui vient au Moulin Rouge, avant toute chose, veut voir le cancan. C'est la vedette du spectacle du Moulin Rouge.
On a beau dire, Montmartre n'a pas changé. Le village a quand même été boulotté par la mégapole. Les bruits, tenez, les bruits ne sont plus les mêmes. Les fiacres, les calèches ont laissé la place aux bus qui déversent les touristes comme ça pour voir, pour dire on est allé à Montmartre. Oui, ils sont passés de la boîte de nuit à l'autobus. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Rien. Ils n'ont même pas flairé Montmartre. Ils l'ont même pas touché. Ils ne se sont pas perdus dans ce labyrinthe de ruelles, de pavés, de ronces, de bistrots, avec ses poètes, ses peintres, ses marlous, ses prostituées, sa pègre. Ils n'ont pas pu suivre le génial petit infirme Toulouse-Lautrec, rentrant titubant du Moulin Rouge, accroché au bras de Jeanne, Jeanne Avril, à qui il a fait promettre de rester un moment chez lui, là, tout près dans sa piole d'artiste, pour poser, oh, rien qu'une heure. Elle a refusé, bien sûr, longtemps, et puis ce soir, elle a accepté. Il va dessiner Jeanne, Jeanne la folle, pour en faire une affiche. La première affiche de Jeanne, qui deviendra un chef-d'œuvre, admiré dans le monde entier. Renoir, Picasso voudront aussi faire le portrait de la grande, de l'étonnante, de la singulière Jeanne Avril. Madame Claudine Brécourt-Villard.
On se trouve dans le jardin de la Salpêtrière, tout près du quartier Charcot, tout près de l'ancien bâtiment où se trouvait le service du professeur Charcot, qui a été le pionnier des études sur l'hystérie, et de ce service où Jeanne Avril est rentrée à l'âge de 14 ans, taxée de malade épileptique. En réalité, elle avait ce qu'on appelle une danse de Saint-Guy, c'est-à-dire qu'elle avait une espèce d'agitation permanente des genoux, des pieds, qu'on appelle aussi la choréomanie. Et c'est là qu'elle a découvert, en tout cas, son désir de danser, ses dons pour la danse, puisqu'il y avait traditionnellement le bal des internes. Et c'est là qu'un jour, on a découvert, elle a fait l'admiration de tout le monde, ses dons innés pour la danse.
Elle était donc atteinte d'une maladie qu'on appelle la danse de Saint-Guy. Est-ce que c'était l'unique raison pour laquelle Jeanne Avril est arrivée ici donc à l'âge de 14 ans ?
Elle est arrivée aussi parce que c'était une enfant martyre. Elle était la fille d'une demi-mondaine et sa mère l'a maltraitée. Sa mère voulait même la prostituer. C'est une raison aussi pour laquelle elle s'est réfugiée dans ce service. Quand sa mère venait la voir, les scènes étaient tellement épouvantable qu'on a dû espacer les visites. Jeanne Avril aurait pu effectivement terminer là dans cet hôpital à soigner des malades et on aurait perdu vraiment une danseuse extraordinaire parce qu'elle est véritablement l'incarnation de la danse.
Les spectateurs entourent les danseuses. Le quadrille consiste en plusieurs figures de groupe, sauf la dernière, dans laquelle chaque danseuse à tour de rôle donne libre cours à sa fantaisie. En dessous de l'orchestre, et fixer une grande glace devant laquelle les filles essaient leur grâce. On dansait avec fureur au Moulin Rouge. Est-ce qu'on danse toujours de la même manière, Thierry Outria ? Est-ce que Jeanne dansait comme une danseuse d'aujourd'hui ?
Je ne pense pas que sa danse était aussi chorégraphiée que la nôtre maintenant, parce que quand Ruggero Angeletti a créé le French Cancan ici pour ce spectacle féerie, il a besoin de faire en sorte que la ligne soit harmonieuse. Donc on impose des figures à des filles. Donc, si vous voulez, il n'y a pas l'esprit soliste. Lorsque Jeanne Avril, à 20 ans, est arrivée au Moulin Rouge, avant toute chose, c'était une soliste. On l'a engagée pour ça, quoi. Holler et Zidler, on dit, ce qu'on veut, c'est votre énergie. Alors, ce qui était étonnant, c'est qu'elle avait, par exemple, c'était la seule cancaneuse au Moulin Rouge à porter des dessous de soie de couleur. Parce que c'était, je veux dire, à l'époque, au Moulin Rouge, c'était interdit. Il fallait, tout le monde devait avoir des dessous blancs. Et elle, c'était la seule à qui on tolérait ça. Et ce qui était marrant, c'est par exemple, c'est qu'elle avait plein de surnoms. On l'appelait Jeanne la Folle, parce que, je veux dire, elle était tellement excitée sur scène. On l'appelait aussi la Mélinite, qui est un dérivé de la dynamite. Parce que qu'est-ce qui se passait? C'est que dès qu'elle entrait sur scène, je veux dire, elle avait une manière de sautiller, de s'agiter, de bouger les jambes. En plus, elle était très, très maigre. Elle était diaphane, transparente, comme ça, avec des jambes infinies. Lorsqu'elle cambrait en arrière, il paraît que son chapeau et sa plume touchaient le sol. Donc, il n'y a qu'à voir la souplesse qu'elle avait. Et en même temps, elle s'agitait tellement dans tous les sens que tout le monde disait, mais c'est comme une orchidée délirante. Enfin, les gens, tous les chroniqueurs avaient des adjectifs insensés parce qu'elle était très... Elle tourbillonnait tellement qu'elle était agitée. On disait que c'était l'incarnation de la danse. Donc, ce qui se passait à l'époque, c'est que tous les gens qui faisaient partie de la même confrérie, par exemple, toutes les lingères, toutes les cousettes, toutes les petites mains, tout ça, eh bien, elles se réunissaient le soir dans certains cafés-concerts et elles dansaient ce qu'on appelait le quadrille réaliste, ce qu'on appelait le chahut à l'époque. C'était pas encore le French Cancan qui a été baptisé plus tard. Donc, ces gens-là n'avaient aucune expérience de la danse. Je m'imagine que les cours de danse, si ça existait, je veux dire, n'avaient pas les moyens. C'était des gens très, très humbles, avec des métiers où il n'y a pas 3 francs 6 sous, quoi. Donc, ces filles, quand elles allaient sur scène, bien sûr qu'il y avait certainement un quadrille avec des figures plus ou moins imposées, mais en même temps, ce qu'on attendait des solistes comme Jeanne Avril, c'était qu'elle fasse une démonstration de célérité, de souplesse. Elle était gracieuse en plus. Tous les gens disaient, par rapport à la Goulue, qui elle était un petit peu boulotte et qui était très très provocante et qui avait un jeu, elle tutoyait tout le monde. La Goulue, quand elle rentrait sur scène, je veux dire, c'était quoi, un petit peu cinglée, quoi. Mais d'un seul coup, que Jeanne Avril arrivait, c'était la grâce. On l'a surnommée de noms de fleurs et d'orchidées, de narcisses et tout ça, parce que justement, elle avait cette danse gracieuse, malgré tout très agitée, puisqu'on l'appelait la Mélinite.
François Karadec, quel regard posait Jeanne Avril sur ses consoeurs, les autres danseuses?
Jeanne Avril, je crois justement ce qu'on devait lui reprocher, c'est qu'elle était très solitaire. Un certain nombre de toiles de Toulouse-Lautrec, où on la voit sortant du Moulin Rouge, par exemple, ou des choses comme ça, ça ressemble à une petite bourgeoise effacée, très recueillie, pas du tout exubérante, et elle était donc comme ça dans la vie courante. Elle n'était pas la danseuse exubérante qu'elle était au Moulin Rouge. Donc que les autres filles, qui au contraire étaient des noceuses et qui vivaient finalement de la noce, c'était pas du tout son genre, elle. Sa vie sentimentale était assez curieuse parce que elle considérait que les autres étaient des prostituées et pas elle. Seulement, elle a passé sa vie à se faire entretenir. Elle refusait le mariage, tout le monde lui demandait de l'épouser, mais elle refusait toujours le mariage. Elle voulait rester indépendante, mais restant indépendante, elle passait de l'un à l'autre. Elle avait de très riches protecteurs. Comme elle disait, elle avait besoin de protecteurs.
Vous écoutez France Inter, plus de Toulouse-Lautrec et de Moulin Rouge ce soir.
Est-ce que Jeanne assistait à toutes les répétitions? Est-ce qu'elle arrivait avant le spectacle? Est-ce qu'elle se distinguait des autres par son comportement?
C'est une femme très modeste et lorsqu'elle arrivait, elle n'était pas déguisée. Je veux dire, dans la vie, c'est une petite bourgeoise, très simple. Alors elle arrivait avec son manteau long, avec son petit bois de fourrure et puis son petit chapeau à plumes. Et dans la rue, personne ne la reconnaissait. On ne sait pas que c'est Jeanne Avril. Après, une fois qu'elle était maquillée, une fois qu'elle avait mis donc sa robe rouge, son chapeau noir et surtout elle changeait tous les jours de sous-vêtements parce qu'avant c'était des pantalons longs quand même avec des mousselines, de la soie et tout ça. Là, elle rentrait dans la peau d'un personnage affriolant et tout le monde disait, mais elle a l'air si vertueuse, mais elle doit bien être dépravée quand même un petit peu au fond d'elle pour faire une chose comme ça et montrer ses jambes et ses bas noirs parce qu'elle avait des jambes magnifiques. Elle doit être un petit peu dépravée, quoi. C'est un peu la vertu qui doit cacher le vice. Mais non, pas du tout, parce qu'une fois qu'elle avait fini sa démonstration de cancan, eh bien, elle se rhabillait avec son petit manteau, elle repartait dans la rue. Il y a des tableaux magnifiques de Toulouse-Lautrec où on la voit justement sortir du Moulin Rouge ou rentrer au Moulin Rouge, et c'est une bourgeoise ordinaire. Sachant que quand elle finissait le Moulin Rouge, à 11h, il y a un fiacre qui l'attendait pour l'amener au Jardin de Paris, près des Champs-Élysées, où elle faisait une autre démonstration, parce qu'il y avait, Ziegler et Holler avaient quand même deux établissements. Le Jardin de Paris qui était antérieur au Moulin Rouge, c'était même une clientèle qui était un peu plus huppée, un peu plus chic. Donc ça faisait très très bien de voir toutes les danseuses du Moulin Rouge monter dans ces calèches magnifiques et partir vers les Champs-Élysées comme ça, où une autre aristocratie, d'autres bourgeois plus riches allaient les applaudir.
Comment Jeanne a-t-elle rencontré Toulouse-Lautrec, François Garadec?
Alors Jeanne Avril a dû rencontrer Toulouse-Lautrec de façon assez naturelle. Quand Toulouse-Lautrec a commencé à s'intéresser aux danseuses, Toulouse-Lautrec s'est toujours intéressée à des spectacles ou à des personnages à la limite du sordide. Quelquefois, bon, c'est carrément quand il allait peindre et passer même plusieurs jours dans des bordels de Paris pour pouvoir peindre des filles dans leur propre milieu. Autrement, c'était le cirque, c'était la danse. Il y a toujours de la sueur dans ce que peint Toulouse-Lautrec. C'est pas des modèles qui viennent poser chez lui. Il va voir des modèles qui sont en sueur, qui sont en plein travail. Là, il a forcément vu Jeanne Avril, qui, avec la Goulue, était une de celles qui se remarquait le plus. La Goulue par son impudeur, d'une part, et Jeanne Avril par ses costumes, très très choisis du point de vue couleur. Et donc Toulouse-Lautrec ne pouvait être qu'attiré que par cette fille qui aimait la couleur et qui savait s'en servir. Toulouse-Lautrec était souvent très exigeant. Quand il l'a fait poser, parce qu'il l'a fait quand même poser dans son atelier, il envoyait quelquefois un fiacre la chercher chez elle pour qu'elle vienne à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, parce qu'il avait envie de la peindre. On a aussi une photo de Toulouse-Lautrec qui avait été à un bal déguisé. C'est Jeanne Avril qui lui avait prêté son chapeau et son manteau. Donc ils étaient quand même très proches l'un de l'autre, au point de se prêter des vêtements, d'aller chercher en voiture à n'importe quelle heure. Mais à part ça, je n'ai aucune preuve d'autres relations entre eux. Toulouse-Lautrec lui donnait le beau rôle dans ses toiles, et lui donnait le rôle d'une fille plus intelligente que les autres. On connaît une affiche, par exemple, où sur laquelle Jeanne Avril examine les gravures qu'on vient de tirer. Donc il lui donne le rôle là d'une femme qui a du goût et qui sait examiner la qualité d'une lithographie.
Il est vrai, Jean-Paul Morel, que Toulouse-Lautrec est surtout attiré par le monde du spectacle.
En plus, ce qui l'intéresse, c'est de saisir les danseurs ou les chanteurs ou chanteuses dans leurs prestations et dans l'instant, c'est-à-dire de représenter, pour faire un portrait idéal, hein, il a fait Yvette Guilbert, il a fait un tas d'autres, c'est de les représenter pour lui un moment un peu symbolique de leur gestuelle au théâtre, c'est-à-dire qu'il est là en spectateur. Hein.
Sur un plan purement artistique, comment se passent les relations entre un homme comme Toulouse-Lautrec et Jeanne Avril, et même d'autres danseuses?
Jeanne Avril était, comme elle le dit dans ses mémoires, très réticente à se faire portraiturer. Bon, elle a quand même été portraiturée par Renoir. On a perdu le tableau. Un de ses amants l'a vendu, on ne sait pas très bien. Elle n'a pas envie de se montrer, elle n'a pas de nombrilisme. Elle est un peu comme elle est. Les portraits donc, que fait Toulouse-Lautrec d'elle sont très émouvants. Sortie du spectacle, elle en train de danser toute seule. Sont vraiment des portraits saisis sur le vif. Il fait pas de la photo, il fait de la peinture, mais c'est encore plus émouvant. Il a été très ému par sa personnalité, quoi. C'est
vraiment. Il a été amoureux d'elle, vous pensez?
Étant donné son état physique, il se faisait pas d'illusions. Mmh. C'était un petit homme mal formé, deux accidents à ses jambes qu'il avait beaucoup diminué, il se faisait pas d'illusions sur son charme potentiel. Et donc, du coup, il avait pas de complexe, il allait fréquenter des gens méprisés du milieu officiel. Donc, contraire, enfin, du coup, il était lui-même très à l'aise dans les milieux qu'il a fréquentés à Montmartre.
Le Moulin Rouge, c'est aussi le royaume de Lautrec. Il y a sa table, son ardoise. Son crayon est toujours en activité, à l'affût d'un couple grotesque, d'une danseuse excentrique, d'une scène amusante. Il griffonne sur des carnets, des bouts de papier sur les nappes. Ah, si Zidler avait gardé tous les dessins de Lautrec. Mais le Moulin Rouge est toujours resté reconnaissant à Lautrec. Même aujourd'hui, il y a au Moulin un salon Lautrec. Fanny Rabas.
Quand vous êtes sur la gauche, vous êtes dans le salon Lautrec, qu'on a baptisé le salon Toulouse-Lautrec, puisque nous avons une quinzaine d'affiches originales de Toulouse-Lautrec. Donc c'était aussi un moyen de lui rendre hommage, puisqu'il faut savoir que Toulouse-Lautrec a quand même été l'un des premiers à contribuer à la notoriété du Moulin Rouge, puisqu'il a été le tout premier affichiste pour le Moulin, et que sa première affiche, qui s'appelle La Goulue, a été exposée dans les murs de Paris en 1891. Et c'est vraiment cette affiche qui a contribué à faire connaître le Moulin Rouge, puisqu'elle a fait scandale dans Paris, puisque sur cette affiche, la Goulue montre son postérieur, même si elle a un pantalon qui l'habille, mais ça faisait scandale dans Paris. Donc tout de suite, on a parlé du Moulin Rouge. Donc on remercie vraiment Monsieur Lautrec et on a voulu lui rendre cet hommage en mettant ses affiches dans notre salon de Toulouse-Lautrec.
Alors celle-ci, donc, qui est en face de nous, là, en effet, comme vous disiez, l'une des plus connues, hein, la Goulue qui danse face à un homme coiffé d'un chapeau haut de forme. Alors une autre affiche de Toulouse-Lautrec, également signée. Alors là, bon... C'est Jeanne Avril qui est en face de nous, elle est assise avec un verre devant elle et un homme coiffé d'un haut de forme qui se trouve sur sa droite.
Oui, en fait, cette affiche, elle la représente non pas au Moulin Rouge, mais elle la représente au Divan Japonais, qui était un autre cabaret de Montmartre. Il faut savoir que toutes les danseuses ne portaient que des dessous blancs quand elles dansaient le cancan. Et ce qui a fait aussi que les autres danseuses étaient très jalouses d'elle, parce qu'elle avait un statut un peu particulier. Et la Goulue, qui avait pourtant pas la langue dans sa poche, voilà, était pas très contente. Et elle, même si elle était la star du Moulin, elle devait porter des dessous blancs, alors que Jeanne Avril avait le droit aux dessous rouges.
Sur cette affiche, elle est habillée en noir. C'était une couleur qu'elle appréciait particulièrement.
Oui, elle appréciait beaucoup le rouge et le noir, hein. Donc soit elle avait une robe rouge avec un chapeau noir ou l'inverse, mais elle avait toujours une robe. Elle était toujours très élégante et très très grande par rapport aux autres danseuses et très fine.
Aujourd'hui, le boulevard de Clichy et ses environs connaissent l'industrie du sexe sous toutes ses formes. Racolage, spectacle, boutique, etc. Mais on ne peut pas dire que ce quartier ignorait totalement ces choses il y a un siècle. C'était déjà le quartier des plaisirs et du sexe, Claude Dubois.
On disait d'ailleurs pas le sexe, on disait l'amour. Hein, le sexe est un mot d'origine anglo-saxonne. Hein, le sexe, est-ce que vous avez eu du sexe aujourd'hui? On disait l'amour. Hein. Mais l'amour était partout. L'amour, c'est-à-dire la galanterie. Parce que au Moulin Rouge, on y allait pour voir les danseuses, mais tout se passait en dessous, dans les vestiaires. Hein, il y avait des messieurs qui avaient de l'argent, les petites comédiennes qui étaient à la fois comédiennes mais un petit peu demi-mondaines. Ces femmes, évidemment, elles vivaient pas de leur charme, elles étaient un petit peu entretenues, elles en vivaient un peu. Alors il y avait de la prostitution, bien entendu, mais le plaisir était partout, la nuit. C'est-à-dire, tout se passe ici, là.
Sur le boulevard de Clichy.
Voilà. De ce côté, en allant vers Pigalle, et de l'autre côté, en allant vers la place Clichy.
Que je les voudrais tour à tour déchiqueter avec ivresse tes jolis membres, ô ma maîtresse, pour en faire un repas d'amour.
Alors donc ici, on est à un endroit stratégique. Pourquoi ? Eh bien parce que dans cette rue des Martyrs, lorsque le plaisir montait vers Montmartre, il y avait des brasseries de femmes, puisqu'il y avait eu une halte à Notre-Dame-de-Lorette, et que nous savons très bien qu'à partir de la fin de la monarchie de juillet, donc Deuxième République, et puis ensuite Napoléon III, les Lorettes, les Nimondaines s'étaient installées dans ce quartier. Alors il y avait des brasseries de femmes, c'était un petit peu des comédiennes, mais elles s'adonnaient à la galanterie évidemment. Et alors, ici, là, sur ce terre-plein, jusqu'en 1860, il y a eu le mur d'octroi des fermiers généraux, qui donc a été abattu en 1860. Paris s'est agrandi, et ici, donc, Paris a englobé Montmartre. Alors, rue des Martyrs, là, nous voyons un cabaret, un bal qui s'appelle le Divan du Monde. Eh bien, ce bal, autrefois, était un café-concert, je ne sais trop comment dire. Et c'est ici, à l'époque de Jeanne Avril et d'Yvette Guilbert, qu'il y a eu le premier striptease. La femme n'était pas toute nue, elle avait, je crois, une sorte de collant en couleur chair. Mais c'est ici que ça s'est passé, quelque temps avant la belle époque.
Oh, ta croupe, en son rythme lent, ta belle croupe qui m'enivre, je veux la posséder en vivre, ou bien en mourir doucement.
Le lieu, en effet, mérite qu'on s'y arrête un instant. Ce cabaret appartient à Gaston Abrecorne. Chaque soir, il vient lui-même détailler quelques chansons sensuelles pendant que des jolies filles en maillot complet font des poses plastiques très suggestives. Alors, ancêtre du striptease, oui, peut-être. Mais ce lieu n'est pas seulement un lieu de débauche. La chanson de qualité y trouve sa place. Il y a même les vendredis classiques de la chanson. Yvette Guilbert y vient s'y produire. Et Jeanne Avril aussi. Car le Moulin Rouge n'a pas l'exclusivité de Jeanne Avril. Elle n'a jamais voulu signer un contrat. Fanny Rabas.
Alors Jeanne Avril, elle est beaucoup partie et revenue du Moulin Rouge. Il paraît même que quand elle revenait au Moulin, le public l'ovationnait en disant Avril est de retour, Avril est de retour.
Elle n'avait pas un contrat d'exclusivité.
Elle n'avait pas du tout de contrat d'exclusivité, contrairement à la Goulue qui vraiment a fait toute sa carrière, on va dire, sa carrière principale au Moulin Rouge. Jeanne Avril, elle partait, elle a travaillé aux Folies Bergères avec Miss Tinguette, au Casino de Paris. Elle a même travaillé à Londres, à Madrid. Donc elle était un peu la globe trotteuse, on va dire, chez les danseuses. Et ça ne se faisait pas du tout à l'époque. Et elle avait le pouvoir, et je pense que c'était par rapport à grâce à son talent, de pouvoir dire « je pars et je reviens ».
Jeanne Avril n'avait pas du tout conscience qu'elle puisse tirer de son métier de danseuse, qu'elle puisse tirer quelque chose qui reste dans la mémoire des gens, comme l'Aloy Fuller, par exemple. L'Aloy Fuller était parfaitement organisée. Elle avait du personnel autour d'elle, elle avait des attachés de presse, elle avait tout ce qu'il fallait. Jeanne Avril, elle, s'est contentée de danser toute seule et finalement de ne pas être un spectacle. Elle n'a jamais cherché. Elle dansait pour elle. Elle était malade de danse. Il fallait qu'elle danse. Et ça, dans n'importe quelle circonstance, musique ou pas musique, ça n'avait aucune espèce d'importance. Elle dansait. Mais elle s'exhibait comme danseuse et comme chanteuse. Elle a essayé de chanter aussi. Mais elle faisait quand même presque toujours partie d'un groupe de danseuses, d'un corps de ballet. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Jeanne Avril, elle est très connue. Et bien, elle a eu le don aussi de trouver le nom de Jeanne Avril. Jeanne, d'ailleurs, elle l'écrit à la manière anglaise, J-A-N-E, Jeanne Avril. C'est donc un jeune poète anglais. Il y a un petit côté anglais derrière.
Chaque année, vers le milieu du mois de mai, Zidler fait l'ouverture du Jardin de Paris. C'est un lieu de plaisir où l'on rencontre toutes les élégantes, les grandes ravageuses de l'époque. Cléo de Mérode, figée dans sa beauté. Émilienne d'Alençon, au délicieux visage. La belle Otero et son profil de dame de pique. Liane de Pougy, au charme onduleux. Cécile Sorel, madame de Sombreuil.
Et Jeanne Avril.
Oui, c'est moi, me voilà, je me ramène. J'ai vu London, j'ai vu Turin, l'Autriche-Hongrie. Mais de Vienne, il fallait que je revienne. Car je ne peux pas, moi je vous le dis, me passer de Paris.
Les Folies Bergères sont alors le music hall le plus élégant de Paris. Le directeur fait grandement les choses. Il fait venir les vedettes du monde entier. On peut y voir Laloï Fuller, Fraxon, Esther Lequin, Yvonne Printemps et surtout Miss Tinguette. Jeanne Avril est engagée pour jouer le rôle de Pierrot dans un ballet pantomime. Et les années passent. Jeanne a du succès partout où elle se produit, à Paris, en Espagne, à Londres, au Théâtre d'Orange. Mais son enthousiasme s'émousse. Elle n'a plus la santé pour danser ainsi et vivre la nuit. Beaucoup de ses amis sont morts. Valentin le Désossé, ses amants, Alphonse Allais, Wiseva. Mort aussi celui qui a fait sa gloire, son ami de toujours, Toulouse-Lautrec. En 1933, elle entre à la maison de retraite de la Fondation Le Body. On l'invite à un hommage à Toulouse-Lautrec, au Moulin de la Galette. Elle lève une dernière fois la jambe en public. Une soirée de gala est donnée à son profit, à l'initiative de Francis Carco, Van Dongen, Pierre Lazareff et Michel Simon. Le 17 janvier 1943, elle meurt à 8 heures du matin, dans la solitude et la plus grande discrétion. Les journaux ne relatent même pas l'événement. Nous sommes en pleine occupation. Quand je passe sur cette petite place où se croisent l'avenue de Trudaine et la rue des Martyrs, et que le soir, surtout au deuxième étage, il y a de la lumière, je vois Lautrec dessinant la silhouette de Jeanne, Jeanne la folle, Jeanne l'orchidée, la mélinite, et je la vois diaphane redescendre le petit escalier, prendre le coin de la rue, passer devant le cirque Medrano, où un clown qui prend l'air la salue, remonter le boulevard de Clichy, sagement, comme une frêle petite bourgeoise qui rentre chez elle, traverser la place Blanche et entrer au Moulin Rouge, où l'attend le cancan. Ce cancan irrésistible, frénétique, terrible.
C'était le NRV France Inter plus des feuillages. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, Toulouse-Lautrec s'affiche. Je vous souhaite le bonsoir.